en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Et rapide, et puis ensuite je donnerai les choses compliquées. Alors la réponse simple et rapide, c'est que l'économie collaborative peut créer de la valeur. Quant à savoir si la création de valeur va se traduire en points de croissance, c'est une question de régulation. Ça va dépendre comment on va organiser le cadre juridique de ces activités. Et la même réponse vaut pour l'emploi. Est-ce que l'économie collaborative crée de l'emploi ? En fait, elle crée de l'activité. Est-ce que cette activité va se traduire par des créations d'emplois où nous l'entendons aujourd'hui ? Ça dépend du cadre juridique et de protection sociale qu'on va mettre en place. Donc c'est un peu de ça que je vais essayer de vous parler dans les 45 minutes qui viennent. La première chose à faire, c'est peut-être de se mettre d'accord sur ce qu'on entend sur l'économie collaborative, parce qu'il n'y a pas de concept communément admis. Il y a une nébuleuse d'activités qui concerne 5 secteurs d'activités principaux. Il y a tout ce qui tourne autour de l'hébergement. Donc, j'imagine que vous avez tous entendu parler de Airbnb, éventuellement d'Abritel, Bedicasa, tous ces sites par lesquels, si vous avez une chambre libre dans votre appartement ou une maison que vous n'utilisez pas tout le temps, vous pouvez la mettre à disposition, moyennant rémunération, d'un tiers. C'est le premier secteur le plus important. Le deuxième secteur, c'est tout ce qui tourne autour de la mobilité, sous des formes très différentes. Ça peut être le covoiturage, c'est-à-dire vous prenez quelqu'un dans votre voiture lorsqu'il vous reste une place libre. Ça, c'est typiquement Blablacar. Ça peut être de l'autopartage. Là, vous laissez carrément votre voiture à quelqu'un lorsque vous ne l'utilisez pas, c'est-à-dire quand même 95% du temps en moyenne. Vous mettez une serrure électronique et puis quelqu'un l'utilise. Ça peut être Drivey ou ça peut être, si vous allez prendre l'avion, vous laissez la voiture à l'aéroport. Quelqu'un d'autre l'utilisera pendant que vous ne serez pas là. Comme ça, non seulement vous ne paierez pas le parking, mais en plus vous gagnerez de l'argent. Ça s'appelle travel car. Puis tout ce qui va autour, si vous avez une place de parking que vous n'utilisez pas, vous la mettez sur One Park et quelqu'un l'utilisera pendant que vous n'êtes pas là, etc. Donc le deuxième grand domaine, c'est tout ce qui tourne autour de la mobilité. Le troisième domaine, ce sont les services à la personne qui vont depuis ce qu'on appelle le jobbing, c'est-à-dire vous cherchez quelqu'un qui va faire quelques travaux de plomberie, réparer votre ordinateur, vous apprendre la guitare. Alors, ce sont des places de marché comme YouPiJob ou Allo Voisin. Pour vous donner quand même une idée de ce dont on parle, je l'ai expérimenté la semaine dernière, donc je vous en parle d'expérience. Si vous avez un robinet qui fuit à la maison, vous appelez à Paris n'importe quel dépanneur, entre les frais de déplacement, l'intervention, vous en aurez pour 200 euros. Si vous appelez YouPiJob, ça vous coûtera 27 euros, très exactement, hein. Donc, vous voyez ce dont on parle. Et c'est aussi, dans le domaine des services à la personne, tout ce qui est le prêt de biens. Si vous avez une paire de skis, une brouette, un objet dont vous ne vous servez pas. Il y a des places de marché qui peuvent être payantes, comme Ziloc, ou gratuites, type Motum. J'y reviens parce que la question de la monétisation est très importante. Il y a des gens qui sont intéressés pour prêter leurs affaires gratuitement pour des raisons qu'on va voir. Donc, troisième grand domaine, service à la personne. Quatrième grand domaine, en émergence très rapide, qui est né plus récemment, mais qui se développe considérablement, sont les services aux entreprises. Ça concerne surtout le fret. Si une entreprise a des camions qui reviennent à vide, par exemple, elle peut chercher à mettre ses mètres cubes à disposition d'autres entreprises. Ça s'appelle U-Ship ou Shiply. Si une entreprise a besoin d'équipements professionnels, alors de toute nature, hein, c'est très impressionnant. Si vous cherchez une pelleteuse, un microscope électronique, enfin bien professionnel, il y a une plateforme qui s'appelle Quipt qui marche très bien. Donc le service aux entreprises est très important. Il s'enrichira très certainement à l'avenir dans les pays dont la régulation le permettra de vente d'électricité. En France, ça n'est pas possible. Si vous avez un panneau solaire, vous ne pouvez vendre votre énergie qu'au réseau. Mais par exemple, en Hollande, via une plateforme qui s'appelle Vendebron, vous pouvez le vendre directement à un pair. Et donc, la vente d'économie de pair, la vente d'énergie de pair à pair sera certainement un secteur très important. Et enfin, le dernier segment, le cinquième, c'est la finance, donc le crowdfunding. Les places de marché, là encore, vous les connaissez peut-être moins de noms. Ça va être Kickstarter ou Ulule. Pour donner un exemple d'une levée de fonds récente, vous avez la Générale de Solaire qui justement finance des fermes solaires qui vient de terminer la semaine dernière une levée de fonds de 2,5 millions. Donc ce ne sont pas des très gros financements, mais enfin ça commence à être significatif. Donc vous voyez, c'est une nébuleuse d'activités extrêmement différentes dont la statistique ne s'est pas encore très bien s'emparer. raison pour laquelle j'ai du mal à vous donner des chiffres consolidés. Je vais quand même vous donner les chiffres qui sont disponibles sur le marché, mais je vous invite à les prendre avec beaucoup de prudence. Les raisons pour lesquelles on ne peut pas bien le quantifier, c'est d'abord parce que ce n'est pas une catégorie statistique. C'est aussi, il faut le dire, parce que ces activités ne sont pas toujours bien déclarées et leurs revenus pas nécessairement bien remplis dans les déclarations fiscales. C'est aussi pour une troisième raison, c'est qu'elles ne sont pas toujours rémunérées en euros. Ce sont des activités qui utilisent des monnaies alternatives ou d'autres formes de rémunération sur lesquelles je reviendrai. Pour ces trois raisons, voilà, les chiffres que je vais vous donner maintenant méritent d'être pris avec beaucoup de précautions, mais je vous dirai ce que j'en retire pour ma part. Il y a deux chiffres essentiellement, enfin deux sources qu'on peut citer. Il y a une étude de la Direction générale des entreprises, qui est donc une direction du ministère de l'Économie et des Finances, qui a été publiée en 2016, l'an dernier, sur des chiffres 2014. Alors, ce qu'elle dit, cette étude, est quand même assez intéressante, mais elle prend un périmètre très large. Elle dit que 8,5% des dépenses de consommation des ménages relèvent de l'économie collaborative. Et 9,4% de leurs revenus. C'est pas tout à fait égal parce que, évidemment, il y a d'autres acteurs économiques dans le jeu. C'est beaucoup, parce que, bon, si j'arrondis, ça fait presque 10%. C'est trompeur parce que ça intègre deux gros paquets qui ne relèvent pas si stricto sensu de l'économie collaborative, qui sont l'immobilier de particulier à particulier, mais pas l'immobilier pour les vacances, l'immobilier si vous avez un appartement à louer complètement, et les ventes de voitures d'occasion, qui sont un marché très important. Si je retire ces deux secteurs de mes 8,4%, il me reste 2,4%. D'accord, 2,4, ce serait donc la compréhension, disons, plus étroite de ce que j'ai indiqué. 2,4%, c'est quand même pas si mal. Si j'essaie de croiser ça avec des chiffres d'usage, c'est-à-dire combien il y a de personnes qui louent des choses sur Airbnb, je vous dis les chiffres que j'ai notés qui sont quand même qui laissent réfléchir. BlaBlaCar, c'est 40 millions d'utilisateurs sur 22 pays, mais la France, à elle toute seule, représente une énorme proportion. C'est 4 millions de voyageurs chaque mois. L'étude de la DGE dont je parlais, en 2014, indiquait que 42% des Français avaient déjà pratiqué le covoiturage. On est en 2017, on peut estimer que probablement on a atteint la barre des 50%. Donc il y a un Français sur deux qui pratique le covoiturage. Si je regarde Airbnb, Airbnb a 100 millions d'utilisateurs dans le monde, 2,3 millions de logements ou de chambres qui sont listés et 500 000 nuitées chaque jour. C'est-à-dire, tous les jours, il y a 500 000 personnes qui dorment chez vous, si je puis dire. Ce qui est intéressant, c'est que la France est très loin devant. Paris est la première ville, par le nombre de logements mis en location, devant New York, devant Londres. Donc Paris a à peu près 56 000 logements. New York va être vers 40 000. Donc Paris est devant de très très loin. Et sur tous les sites que je vous ai mentionnés, BlaBlaCar, c'est français pour de bonnes raisons. Donc les Français ont beaucoup d'appétit pour l'économie collaborative. Le dernier site que je mentionne, même si on peut discuter si c'est de l'économie collaborative ou pas, c'est Le Bon Coin. Alors pourquoi on peut discuter ? Parce que ça n'est pas du partage, c'est de la vente d'occasion. Mais les chiffres, là encore, sont impressionnants. Le Bon Coin, qui pour le coup est purement français, donc on n'a pas de... Enfin, il y a un peu de dépassement sur la Belgique, mais c'est 26 millions de visiteurs uniques par mois. C'est-à-dire que chaque mois, à peu près la moitié des Français adultes vont faire une transaction sur Le Bon Coin, ou se rendent sur Le Bon Coin. Donc vous voyez, ce dont on parle, c'est assez massif. Alors, si je vous donne les 2,5% de dépenses des consommateurs, vous vous dites c'est modeste, parce que, évidemment, on parle de choses qui sont souvent facturées au coût marginal. Mais en termes d'usage dans la population, c'est énorme. Je vous assomme avec une dernière série de chiffres. Ensuite, c'est promis, j'arrête. C'est une étude, cette fois, qui a été commanditée par l'Union européenne, qui cherchait à savoir comment ça se présentait au niveau de l'Union. Et elle a commandé cette étude à PricewaterhouseCoopers. Alors, il y a une chose qui ressort, qui conforte les résultats précédents, c'est que la France est très loin devant les autres pays de l'Union européenne, avec l'Angleterre. Ensuite, on trouve les Allemands et les Espagnols, et ensuite les autres pays très loin derrière. Les chiffres eux-mêmes qui sont donnés sont très très modestes. En fait, ils sont même inférieurs à ce que l'étude DGE trouve pour simplement la France. Ils disent 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, ce qui paraît étonnamment peu, puisque rien que les 2,5% de consommation des ménages dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait déjà 37 milliards. Donc on voit pas comment ça pourrait faire 28 milliards à l'échelon de l'Union. Je pense que l'écart s'explique sans doute par le fait que on a exclu tous les achats et ventes de biens d'occasion, j'imagine. Donc ceci ne fait que renforcer la prudence à laquelle je vous invitais dans l'interprétation des chiffres. Mais néanmoins, dans cette étude, il y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est les taux de croissance qui sont prévus. Donc l'étude Pricewaterhouse prévoit une multiplication par 20 en 10 ans. Donc ça veut dire en 2025, ils estiment que les transactions seront passées de 28 milliards à 570 milliards. Pourquoi ? À la fois parce qu'il y aura plus de gens qui l'adopteront, et ensuite parce qu'ils misent sur un changement des règles juridiques, qui est le sujet dont on va parler. Et je l'illustrais avec les règles concernant les ventes d'électricité, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres choses. L'autre point qui nous intéresse, c'est qu'ils calculent que dans l'économie des plateformes, puisque toutes ces transactions généralement passent par des plateformes, la commission prise par la plateforme est de 15%. Ça, c'est intéressant parce que le chiffre d'affaires des plateformes, lui, est très bien suivi. Ce sont des entreprises comme les autres. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, si on essaye de calculer, un indice approximatif, ce serait de prendre le chiffre d'affaires des plateformes et de le multiplier en considérant que ça fait 15% du total. Donc voilà à peu près pour les chiffres. Je suis tout à fait désolée face à des esprits aussi précis que vous de ne pas pouvoir donner des choses plus certaines, mais c'est à peu près tout ce dont on dispose pour essayer de quantifier cette économie. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui nous laisse penser que cette économie peut créer de la valeur ? Alors ça, pour le coup, c'est extrêmement simple à expliquer. C'est qu'on prend des actifs qui étaient sous-utilisés et on les exploite au coût marginal. Donc autrement dit, on augmente le taux d'utilisation d'actifs qui sont déjà présents dans l'économie, qui étaient sous-utilisés. Donc ça ne peut que créer de la valeur. Ça ajoute, et je le mentionne au passage, bien que ce soit totalement inquantifiable, ça ajoute deux actifs immatériels, si je puis dire, dans l'économie. Le premier effet, c'est que ça fait prendre conscience à chacun des actifs dormants dont il dispose. C'est-à-dire que avant que Blablacar n'existe, aucun d'entre nous ne considérait qu'une place vide dans sa voiture était un actif inutilisé. Avant que U-Ship n'existe, aucun camion ne trouvait que c'était peut-être dommage de circuler à vide, mais n'imaginez pas que ce soit un actif monétisable. Donc le premier effet de cette économie collaborative, ça a été pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, de regarder ce qu'ils avaient comme actifs et de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses à monétiser. Je reviens un instant sur la plateforme dont je vous parlais, qui s'appelle Mutum, qui est cette plateforme où l'on peut s'échanger ou se prêter des objets qu'on n'utilise pas. Ce sont des objets généralement très modestes. Hein. C'est un appareil pour faire une raclette, ça peut être une échelle, enfin, ce sont des objets très modestes. Donc, le parti pris de Mutum a été de dire: si je mets un prix, même très faible, si le président Pébro me prête son appareil raclette pour 2 euros, parce que je ne pense pas que ça vaudrait plus, le fait de le monétiser, c'est dissuasif. Il vaut mieux ne pas mettre de prix du tout. Donc ils ont créé une monnaie alternative qui s'appelle le Mutum. Et à ce moment-là, le président Pébro sera incité à me prêter son appareil à raclette pour 100 Mutum, parce qu'il se dit qu'en accumulant des Mutum, peut-être un jour il aura besoin, lui, d'une babysitter qui fera réviser les mathématiques à ses petits-enfants. Et à ce moment-là, il utilisera ses Mutum pour cela. Mais si on commence à monétiser avec des vrais euros, vous vous rendez compte, on va commencer à comptabiliser, le fait d'utiliser de la vraie monnaie sera pénalisant. Donc dans cette logique, ce qu'a fait Mutum, c'est que du jour où vous vous inscrivez, on vous paye, en Mutum, pas en euros bien sûr, pour lister vos objets. Pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire que la première chose à faire dans l'économie collaborative, c'est de faire prendre conscience à chacun qu'il a des choses à apporter à la communauté. Donc en vous payant des Mutum pour que vous disiez que oui, tiens, vous avez un fer à repasser, une perceuse, une brouette, je vous invite à révéler à tout le monde les actifs dormants que vous avez chez vous. Et dans les entreprises, je vois maintenant des entreprises qui mettent ce genre de mécanisme interne, c'est-à-dire pour que les gens s'interrogent, mais qu'est-ce que j'ai qui aurait potentiellement de la valeur et que je n'utilise pas ? Sachant que ce qu'on a, c'est des objets, mais c'est aussi des compétences. Hein, n'oubliez pas, dans les plateformes collaboratives dont je parle, il y a beaucoup d'immatériel, des gens qui vous proposent de vous donner une leçon de karaté, de réparer votre ordinateur, etc. Donc, à part l'effet d'augmenter le taux d'utilisation des actifs, il y a un deuxième bénéfice, donc, qui est simplement de révéler l'existence des actifs inutilisés. Et enfin, il y a un troisième bénéfice qui est tout ce qui est économie de la confiance. Ce qu'on sait bien en économie, c'est que moins il y a de confiance, plus il y a de dépenses dans des mécanismes qui sont censés apporter de la confiance. Dans cette économie dont je vous parle, il faut vous imaginer que vous allez partir en laissant quelqu'un que vous n'avez jamais vu et que vous ne reverrez jamais occuper votre maison, conduire votre voiture, etc. Donc il a fallu vraiment travailler sur la confiance et on a vu beaucoup de tentatives et maintenant quelque chose qui s'est à peu près normalisé. Ce qu'on sait, c'est pour que ça marche, pour que les gens aient confiance, il faut d'abord une vérification de l'identité, une sorte d'attestation de l'identité qui passe par plusieurs choses, des aspects très procéduraux, c'est-à-dire que les gens enregistrent leur passeport, leur carte d'identité, etc. Et des aspects beaucoup plus subtils, c'est qu'il faut que les gens se présentent. Alors ça peut paraître idiot, mais ce qu'on voit, c'est que sur Blablacar ou sur Airbnb, quelqu'un qui a raconté, ne serait-ce qu'en quelques lignes, qui il était, inspire beaucoup plus la confiance et donc a beaucoup plus de transactions avec des aspects assez rigolos. Donc, par exemple, sur Blablacar, quand vous remplissez votre profil, vous devez dire si vous êtes bla, blabla ou blablabla. Parce que si vous devez faire 5 heures Paris-Nantes avec une personne qui est très bavarde alors que vous, vous êtes introverti, ça va être vraiment très pénible. Donc ça, c'est très important. Et les gens qui ne remplissent pas correctement leur profil ont beaucoup moins de transactions. Donc il y a toute la partie identification de la personne. Ensuite, il y a évidemment des parties purement financières, c'est-à-dire qu'en général, on dépose les fonds à un tiers de confiance qui les débloque lorsque la transaction a été jugée bien accompli par les deux parties. De plus en plus, il y a des mécanismes assurantiels. C'est tout à fait ridicule parce que, en fait, vous et moi, généralement, à travers notre assurance habitation, on est déjà assuré contre les risques qui peuvent survenir dans ce genre de cas. Néanmoins, pour encore rassurer les gens, vous allez voir sur toutes les plateformes, sur Airbnb, sur Blablacar, des contrats d'assurance ad hoc pour des sommes très élevées. Hein, sur Airbnb, même si vous louez une chambre pour une soirée, s'il y a un dommage, vous êtes assuré automatiquement, vous n'avez rien fait, c'est juste en passant la transaction, à hauteur de 800 000 euros. Donc voilà, pour dévaster votre appartement à hauteur de 800 000 euros en une soirée, il faut quand même y aller, quoi. Hein. Donc en fait, cette assurance est inutile parce qu'encore une fois, vous êtes déjà assuré. Mais ça rassure les gens et les assureurs ont bien vu que le marché était en train de se déplacer d'une assurance qui était liée à la propriété des biens à une assurance qui était liée à l'usage. Donc il y a tout un marché qui est en train de se mettre en place. Et puis, évidemment, le dernier mécanisme que vous connaissez tous, c'est l'évaluation croisée. C'est-à-dire, je donne un certain nombre d'étoiles aux personnes qui ont occupé mon appartement, et inversement, elles me donnent un certain nombre d'étoiles si elles ont trouvé que mon appartement était bien. Toute cette économie de la confiance est très importante parce qu'elle a été répliquée abondamment par des entreprises qui n'ont rien de collaboratif, mais qui se heurtaient aux mêmes difficultés, et notamment pour tout ce qui est commerce électronique. Donc ça, c'est un apport peu quantifiable, mais très important de l'économie collaborative. Alors, si on se met d'accord sur le fait que cette économie crée de la valeur, encore une fois, mécaniquement parce qu'elle accroît le taux d'utilisation des actifs, et puis monétairement parce qu'on voit bien les flux de transactions, est-ce qu'on peut dire pour autant que ça crée de la croissance, des points de PIB ? Alors là, ça va dépendre de trois choses. La première chose, le premier point, c'est dans quelle monnaie c'est facturé. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la plupart des cas, c'est facturé en euros ou en dollars ou en sterling, enfin, une monnaie officielle. Dans un certain nombre de cas, c'est facturé dans une monnaie alternative, qui sert juste, en fait, à comptabiliser les crédits que nous avons les uns vis-à-vis des autres, mais que vous ne pourriez pas dépenser dans la vie courante. Cette partie, fut-elle minoritaire, est importante. Elle nous dit aussi une chose en creux, c'est que si l'État venait à taxer trop violemment les revenus tirés de l'économie collaborative, elle ne s'éteindrait pas, elle se déplacerait massivement vers des monnaies alternatives qui n'ont d'ailleurs pas le statut de monnaie en France. Aux États-Unis, la plupart d'entre elles ont le statut de commodité. C'est comme si c'était du jus d'orange ou du blé, enfin ce que vous voulez, mais pas de la monnaie. Voilà, l'existence de cette possibilité de transaction en monnaie non officielle est une ligne de fuite très importante face à un gouvernement qui voudrait trop taxer cette économie. Le deuxième point qui va nous permettre... Mais en attendant, naturellement, toutes ces transactions qui ne sont pas en monnaie officielle ne sont pas dans le PIB. Hein, on est quand même bien d'accord. Le deuxième point de régulation qui va être très important, c'est autant on est d'accord que ça crée de la valeur, mais ça ne nous dit rien de comment elle est partagée. Donc c'est le problème de la capture de la valeur. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un certain nombre de plateformes ont une fâcheuse tendance à être assez prédatrices, c'est-à-dire à prélever une part très importante de la valeur. Si je prends le cas de Uber, alors on peut discuter très longuement sur le point de savoir si Uber c'est de l'économie collaborative ou non, disons que c'est de l'économie distribuée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une force de travail encadrée et monolithique, vous avez des chauffeurs qui travaillent s'ils veulent. Bon, Uber prend 25%, c'est-à-dire quand même 10% de plus que les 15% que je vous indiquais comme étant la moyenne. Donc qu'est-ce qui se passe quand une plateforme se montre trop prédatrice ? Ben, la première chose qui se passe, c'est que le marché réagit. Alors en l'occurrence, il réagit de deux manières. Vous commencez à voir, pas encore en France, mais aux États-Unis, une plateforme qui s'appelle Juno, qui fait sa pub auprès des chauffeurs en disant « Venez chez moi, je ne prends que 15%. » Et donc les chauffeurs sont en train de quitter massivement Uber pour aller chez Juno. Et évidemment, le succès d'une plateforme dépend du nombre de chauffeurs disponibles pour vous conduire là où vous voulez. Donc le marché se déplace. La deuxième chose qui se passe, c'est que on a vu apparaître des plateformes qui ont désintermédié l'intermédiaire, si je puis dire, en passant par une technologie dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la blockchain. Donc aux États-Unis, ça s'appelle Arcade City, qui est présent dans une douzaine de villes. En Israël, il y a une plateforme qui s'appelle Lazouz. Donc là, c'est simple, vous passez de l'intermédiaire, donc c'est pas 25% qui vous prend, c'est rien. Enfin, en fait, c'est un peu de Bitcoin, mais c'est très peu de choses. Donc on peut se dire finalement, la question de la... Alors la captation de la valeur est importante pour nous Français, parce que je vous rappelle que la plupart de ces plateformes sont d'origine américaine. Si on considère que la partie, les revenus faits par vous et moi ne sont pas toujours dans nos déclarations d'impôts et que la partie taxable est celle de la plateforme, mais que malheureusement la plateforme n'est pas française, alors là, pour le coup, c'est absolument certain que la création de points de croissance en France va être assez limitée. Donc le fait d'avoir une plateforme qui ne soit pas trop prédatrice est assez important pour savoir ce qui reste chez nous. Donc, première solution, on peut se dire, d'accord, les mécanismes de marché, du type de ceux que j'ai illustrés, vont réguler et éviter que la plateforme ne capte trop de valeur. Bon, ça, c'est possible si la plateforme n'est pas en monopole. Alors, le problème de l'économie numérique, comme vous savez, c'est qu'elle a des rendements croissants, donc elle est très propice à la formation de monopole. C'est pas gênant en soi, tant que le monopole, qui est donc en position dominante, n'abuse pas de sa position dominante. Alors, c'est là que le régulateur a un rôle très important à jouer. Le régulateur français s'en est pas encore tellement emparé. Mais par contre, on sait très bien à quoi ça ressemblerait. On le sait parce que ça s'est déjà produit dans l'hôtellerie avec un site comme Booking.com. Et ça a déjà été tranché en droit de la concurrence. Donc Booking, vous voyez, c'est un site par lequel vous pouvez réserver une chambre à l'hôtel. Booking, pendant toute une période, a interdit aux hôteliers qui listaient leurs chambres chez lui de proposer des prix plus bas si, par exemple, un client venait les voir directement. Ça a été jugé non conforme au droit de la concurrence et étant un abus de position dominante manifeste. Dans l'économie dont on parle, je reprends le cas d'Uber par hypothèse, il y aurait un abus de position dominante si Uber interdisait à ses chauffeurs d'aller s'enregistrer sur chauffeur privé, par exemple. Mais si ça n'est pas interdit, bon, bah, il y a une position dominante d'Uber, mais il n'y a pas pour autant un abus de position dominante. Donc ça, c'est une chose que le régulateur va devoir apprendre à regarder très en détail. Pour l'instant, on n'est pas à ce degré de maturité parce que pour l'instant, le régulateur cherche surtout à éliminer les plateformes et non pas à les réguler, ce qui, à mon avis, est une grave erreur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il devra apprendre. Alors ensuite, je mentionne un dernier point qui n'est pas un point de régulation, mais qui est très très important. Il y a tous les gens qui sont issus du milieu coopératif et mutualiste. Pour eux, cette économie collaborative, ça représente une renaissance incroyable, ou en tout cas l'espoir d'une renaissance incroyable du mouvement coopératif. Donc, il y a deux exemples d'organismes qui ont vraiment saisi la balle au bond. En France, c'est la MAIF, qui est une mutuelle d'assurance, qui est extraordinairement dynamique sur ce sujet, qui a créé un fonds d'investissement qui s'appelle MAIF Ventures, qui prend des tickets dans quasiment toutes les plateformes dont je viens de vous parler, et à la fois pour apprendre comment ça fonctionne, et puis parce que c'est vraiment l'occasion de réfléchir à ce que pourrait être le mutualisme au XXIe siècle. Le deuxième exemple que je peux vous citer, c'est la ville de New York, qui a créé un incubateur de start-up exclusivement dédié à des coopératives digitales, numériques. C'est-à-dire, c'est fait. Vous pouvez proposer des activités dans le domaine que vous voulez, je ne sais pas, l'agriculture, le cinéma, ce que vous voulez, mais ça doit être coopératif. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est une manière de résoudre le problème de la captation de la valeur. D'une manière plus massive, je ne crois pas que ça se produise pour plein de raisons, mais le fait que le sujet soit sur la table est intéressant. Vous savez que Twitter, qui est le réseau social bien connu, a des difficultés financières assez importantes. Ces actionnaires ont déposé à la récente Assemblée générale une motion demandant que le conseil d'administration étudie la possibilité de transformer Twitter en coopérative, considérant que c'est de l'économie collaborative au sens où tous les contenus sont produits par vous et moi, ils n'ont pas une équipe de journalistes qui... Donc voilà, sur cette question de la croissance, je me résume en disant vraiment, ça me paraît indubitable que ça crée de la valeur. Comment la valeur se transfère en point de croissance ou pas, vous avez vraiment cette question de la monnaie qu'on utilise et de la régulation de la plateforme. Alors après, comme je vous ai présenté le verre à moitié plein, vous n'allez pas manquer de me dire, d'accord, mais il peut être aussi à moitié vide. C'est-à-dire, est-ce que l'économie collaborative peut dévaster tout ce qu'il y a autour ? Je vous ai donné tout à l'heure les écarts de prix sur l'activité toute simple consistant à remplacer un joint de plomberie. Hein, on est dans des écarts de 1 à 8. Donc il y a manifestement un sujet. Alors, je commence à nouveau par des chiffres qui ne disent pas tout. C'est un exemple, mais qui illustre bien le sujet. Depuis l'arrivée d'Uber en France, je parle souvent d'Uber parce que figurez-vous que c'est une entreprise qui attire tellement d'acrimonie que du coup, elle a été très étudiée et on a beaucoup de chiffres. C'est l'avantage. Depuis l'arrivée d'Uber en France, le chiffre d'affaires des taxis dans les villes où Uber est présent a diminué de 5% par an. Donc, on peut dire que Uber a pris des parts de marché aux taxis. Mais le marché total du transport de personnes, correspondant à cette fonction-là, je ne parle pas des transports collectifs, qui jusque-là augmentait de 4% par an, a augmenté de 10% par an. On pourrait dire, quoique je n'ai pas les chiffres, mais empiriquement, on voit la même chose avec Blablacar. Blablacar a pris des parts de marché au TGV, parce que le TGV est très cher, il faut dire, mais ça a surtout augmenté considérablement le nombre de gens qui se déplacent. Pareil pour Airbnb, a pris des parts de marché aux hôteliers, mais a rendu solvable une demande de voyage qui jusqu'à présent ne s'exprimait pas, parce que tout simplement les gens n'avaient pas les moyens de se payer un hébergement. Donc, on peut dire que oui, l'économie collaborative provoque des dégâts dans l'économie en prenant des parts de marché, mais quand même, elle accroît la taille du marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toute innovation qui apporte un meilleur service prend des parts de marché. C'est lié aussi au fait que, honnêtement, le service est quand même bien meilleur. Donc voilà. Après, une fois ayant dit ça, je reconnais qu'il y a un problème de régulation. Alors cette fois-ci, le problème de régulation est le suivant. C'est que, même chose, le régulateur est très en retard et donc classe les entreprises considérées dans une mauvaise catégorie. J'en donne deux exemples très frappants. L'un qui est en train d'être jugé à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que Uber, jusqu'à présent, est enregistré et donc régulé en tant qu'entreprise de services numériques. Si Uber était régulé en tant qu'entreprise de transport, ce qui est l'objet du contentieux en cours, qui a été introduit par des VTC, des taxis espagnols, si c'était une entreprise de transport, il serait soumis à des contraintes beaucoup plus importantes. On a eu la même chose dans un genre différent, mais je le mentionne parce qu'il me semble que c'est très illustratif, avec Facebook. Depuis le début, Facebook a toujours dit « je ne suis pas un média ». Je suis une plateforme d'hébergement. Parce que si Facebook était un média, il aurait une responsabilité éditoriale sur tout ce qui se publie chez lui. Et donc, il devrait le réguler. Et là, on est dans la situation bizarre où Facebook continue à dire « je ne suis pas un média, je suis une plateforme d'hébergement informatique ». Et en même temps, ils viennent d'embaucher un service entier pour faire la chasse aux nouvelles fallacieuses, ce qu'on appelle les fake news, ce qui veut bien dire qu'ils s'en attribuent quand même une responsabilité. Mais vous voyez, on est dans un cadre juridique extrêmement mouvant. Si ces entreprises étaient régulées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qui une entreprise de transport, qui une entreprise d'hébergement, elles devraient appliquer d'autres normes. Ça, c'est une première partie de la réponse, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir que le régulateur redéfinisse ces catégories de régulation. Après, il y a quand même une deuxième manière de voir les choses. Je vais prendre un cas pratique. Prenons Airbnb. Les hôteliers disent « oui, mais enfin, Airbnb n'est pas soumis aux contraintes, par exemple, d'avoir l'accessibilité des chambres aux handicapés. » Et nous, hôteliers, on doit investir pour se mettre aux normes, donc forcément, on a des coûts plus élevés. Bon, alors ça, effectivement, c'est juste. Mais ce que vous voyez émerger maintenant, c'est tout un tas de gens qui disent « ben d'accord, mais... est-ce qu'on est sûr que l'ancienne manière de réguler est toujours la bonne ? Alors, donc, vous avez notamment un programme de recherche à la Kennedy School of Government qui dit toute la régulation qu'on avait antérieurement, enfin toute, en tout cas une bonne partie de la régulation qu'on avait antérieurement, qui disait que pour exercer telle profession, il fallait avoir tel diplôme, que vos installations techniques devaient être comme ci, comme ça, etc. Donc toutes ces règles qui sont autant de barrières à l'entrée dans le métier et autant de charges étaient liées à un contexte où l'information était peu disponible. Au demeurant, les situations étaient assez stables. C'est-à-dire, si vous aviez inspecté quelqu'un l'an dernier ou il y a deux ans, la situation aujourd'hui était plus ou moins toujours pareille. Et tertio, ce qu'ils appellent le accountability, c'est-à-dire la transparence du compte-rendu, était très faible. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. La transparence du compte-rendu, vous voyez, un hôtelier, il est peut-être visité par l'inspection du tourisme une fois tous les 5 ans, mais il est visité par des dizaines de clients tous les jours. Et dans le système que je vous indiquais, les dizaines de clients, ils mettent des étoiles. Donc on sait très bien si la cuisine est insalubre ou si les chambres ne sont pas nettoyées. C'est évidemment l'aspect tout à fait anecdotique des choses, mais encore une fois, vous avez un programme de recherche très important à la Kennedy School of Government qui s'appelle « Est-ce qu'on peut réinventer Regulating for the 21st Century ?» Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut réguler par les données ? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des règles a priori et un certain nombre de cases à cocher, l'entreprise se soumettrait ces données, y compris ces données d'exploitation, en accès libre à l'administration, qui pourrait donc à tout moment contrôler ce qu'ont dit les clients. Je ne sais pas si c'était une école, ils verraient les résultats aux examens, mais l'assiduité des élèves, la présence des professeurs, au lieu qu'on crée des normes a priori. Ce renversement est en train de se faire dans la régulation des télécoms, parce que c'est plus facile, étant donné que tout est déjà dématérialisé. On en a quelques tout petits exemples dans la banque. Enfin, on peut considérer qu'une prémisse de ça, ce serait ce qui s'est fait pour Bâle III, où lorsque les entreprises acceptaient d'ouvrir leurs livres aux régulateurs, elles pouvaient prendre ce qu'on appelle le modèle avancé de capital, tandis que sinon, elles devaient prendre le modèle standard. C'est une toute petite ébauche de ce que ça pourrait être. Tout ça pour dire que la bonne réponse à l'asymétrie de situation qui fait que les entreprises de l'économie collaborative ont une régulation inexistante, ou en tout cas beaucoup plus souple que leur équivalent traditionnel, qu'il soit hôtelier, taxi, etc., la bonne réponse n'est pas forcément d'aligner la régulation, d'appliquer aux nouveaux entrants la régulation antérieure, c'est peut-être se demander si, avec les nouvelles manières de fonctionner et notamment beaucoup plus grande transparence d'information, on pourrait inventer une nouvelle manière de réguler, plus légère, qui pourrait d'ailleurs en retour s'appliquer aux anciens. Voilà sur la croissance. Je dis un mot sur l'emploi parce que c'est assez important. Alors, on a à nouveau cette question de grand flou sur les chiffres. Et le grand flou sur les chiffres s'explique à nouveau par le fait que ça n'est pas très bien déclaré, mais par quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire que ce que les personnes qui sont nées avec cette économie collaborative considèrent comme un travail et un emploi n'a absolument rien de commun avec ce que la génération précédente considère comme un emploi. Je résumerai ça par une formule d'un conseil en management américain qui s'appelle Seth Godin, qui l'a résumé comme ça. Il disait, bon voilà, mon père a exercé un métier dans toute sa vie. Moi, quand j'arriverai à l'âge de la retraite, j'aurai exercé 7 métiers et mon fils exercera 7 métiers en même temps. Je vous rappelle que d'ores et déjà, 20% des salariés de moins de 30 ans ont un deuxième job à côté, que leur employeur le sache ou non. C'est-à-dire que s'il connaît en informatique, peut-être qu'il fait des applications, il fabrique des applications, il la met sur l'App Store et il gagne de l'argent comme ça. Peut-être que, il a une maison de campagne et puis il est apiculteur. Enfin bon, en tout cas, 30% des salariés, 20% des salariés de moins de 30 ans ont un deuxième job. En termes de chiffres plus ou moins officiels, l'INSEE nous dit qu'il y a 2,8 millions de travailleurs indépendants. En France, McKinsey, qui a fait une étude à l'échelle européenne, à nouveau à la demande de la Commission européenne, dit en France, il y a 13 millions de gens qui ont des revenus issus du travail indépendant. D'accord ? Donc entre 2,8 et 13 millions, vous fixez le curseur. Sur ces 13 millions, ça ne veut pas dire qu'il y a 13 millions de travailleurs indépendants, ça veut dire qu'il y a 13 millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, retirent des revenus d'un travail indépendant qui, pour la plupart, relève des tâches qu'on a dites. Sur ces 13 millions, ce qui est intéressant, il nous donne une deuxième indication. Pour 5 millions d'entre eux, c'est-à-dire un petit 40%, c'est l'activité principale. Et pour 60%, c'est une activité annexe. Ce qui nous ramène au problème des 7 métiers en même temps. Alors, ça veut dire quand même qu'on est face à un gros réservoir de gens que l'administration n'a pas du tout identifié. Ont-ils un emploi ? C'est une question. En tout cas, ils ont un travail rémunéré dans l'économie collaborative. Ensuite, qualitativement, donc ça fait beaucoup de monde. Je ne mettrai pas ma main au feu sur les 13 millions parce que je ne mets ma main au feu sur aucun des chiffres que je vous ai donnés, vu les difficultés de nomenclature que je vous ai indiquées, mais on sait que c'est en tout cas beaucoup plus que les 2,8 millions d'indépendants. La deuxième chose qu'on sait, c'est que ce sont des gens qui, pour la plupart, n'auraient pas forcément trouvé de travail autrement. Je reviens à l'étude faite sur Uber par le BCG. Alors déjà, deux choses. Cette étude a été portée sur le premier semestre 2016. 15% des créations nettes d'emplois en France étaient liées au VTC. Pas seulement à Uber, hein, mais donc les créations d'emplois par des VTC, ça représentait 15% des créations nettes d'emplois en France. Ça représentait 25% en Île-de-France. Donc déjà, il faut se rendre compte des flux que ça représente. La deuxième chose, c'est que il y a actuellement 22 000 chauffeurs de VTC en France. Sur ces 22 000, dans cette enquête qui a été faite par le BCG, il y en a 8 000 qui ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'emploi précédemment. Et sur ces 8 000, il y en avait un tiers qui disait qu'ils étaient au chômage depuis plus d'un an. Donc, un, ça crée de l'emploi. Deux, ça crée de l'emploi pour des personnes qui n'en auraient pas trouvé autrement. Donc, ça... est-ce que ça fait de l'emploi au sens où on se le représente? Ça se discute, mais encore une fois, je crois que notre catégorie n'est pas notre manière de catégoriser l'emploi n'est pas tout à fait adaptée. Je mentionne un dernier chiffre qui est un peu différent de notre sujet, mais c'est pour vous montrer l'ampleur de cette économie diffuse. Vous avez tous peut-être un smartphone sur lequel il y a des applications. Donc, l'économie des applications, c'est quelque chose de récent puisque l'ouverture de le début de cette économie, c'est la création par Apple de son App Store. Ça date de juin 2008. D'accord? Alors, entre juin 2008 et maintenant, c'est-à-dire en un peu plus de 8 ans, cette économie a créé 3 millions d'emplois aux États-Unis et en Europe. Je ne compte pas les emplois en Chine sur d'autres plateformes type WeChat parce qu'en fait, on n'en sait rien. Alors, déjà, les chiffres occidentaux sont compliqués, mais alors les chiffres chinois, je renonce. Si je prends sur ces 3 millions d'emplois qui ont été créés, il y en a à peu près la moitié sur des applications App Store, donc Apple, et l'autre moitié sur Android. Pour la moitié qui concerne l'App Store, il se trouve que Apple publie les chiffres de rémunération, puisque les gens mettent des applications, ils les fabriquent, ils les mettent sur la plateforme. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Quand elles sont payantes, Apple reverse des royalties aux personnes qui ont fait ces applications. Ça fait 70 milliards de dollars, d'accord, depuis la création de l'App Store. Voilà, donc c'est peut-être pas de l'emploi que vous trouveriez convenable, mais enfin, c'est 3 millions de personnes, donc 1,5 million pour Apple, qui ont gagné 70 milliards de dollars. Alors maintenant, est-ce que j'essaie de vous apporter ma réponse à est-ce que c'est des vrais emplois, pas des vrais emplois, etc. Mais honnêtement, c'est dans le domaine du subjectif. La première chose que je constate, c'est que il y a pas mal d'enquêtes sociologiques en France, en Europe, aux États-Unis, pour le point de savoir si ces gens-là font ce métier, enfin font pratiquent ces activités par défaut ou par plaisir. Donc, si je reviens à l'enquête McKinsey qui porte spécifiquement sur la France, l'enquête est plus vaste, mais il y a un chapitre qui porte spécifiquement sur la France. On a nos 13 millions de Français qui tirent des revenus de cette économie. On leur demande si c'est par choix ou par nécessité. Il y en a 9 millions, c'est-à-dire 70%, qui le font par choix. D'accord? Donc, ça fait qu'il n'y en a que 4 millions. Il y en a un petit tiers qui le fait par nécessité. Donc, j'imagine que... Et alors, l'autre chose, c'est que si je regarde ceux qui ne le font à titre principal, puisque je vous ai dit qu'il y en a pour qui c'est un job principal, d'autres c'est un job annexe. Donc, si je prends les gens qui le font à titre principal, c'est leur gagne-pain, quoi, il y en a 5 millions. Sur ces 5 millions, il y en a 4 millions qui le font par choix. Donc, la proportion est encore plus élevée. Donc, premier indice, s'ils considéraient que ce n'était pas un vrai boulot, j'imagine qu'ils chercheraient à faire autre chose ou ils seraient classés dans la catégorie par nécessité. Ils ne seraient pas classés dans la catégorie par choix. Donc, il faut considérer que même si on est dans une époque où le modèle salarial a l'air d'être le rêve pour tout le monde, ça n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui considèrent que ce que d'autres qualifient d'emploi précaire, en fait, c'est de l'autonomie et de la liberté. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, il reste... Donc, si je me résume, c'est quand même des emplois qui procurent un certain plaisir aux gens qui le font, qui leur apportent des revenus. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Et ça, c'est de fait un vrai sujet. Il nous manque de la protection sociale. Là, il y a deux choses qu'on peut dire. Il y a l'aspect droit du travail, enfin, droit, protection des droits, et l'aspect assurance sociale. Sur l'aspect du droit du travail, alors là, je vous renvoie à une très bonne étude faite par Jacques Barthélémy et Gilles Berset, qui a été publiée à l'Institut de l'entreprise, qui dit, me semble-t-il, tout ce qu'il y a à savoir sur cette question. C'est-à-dire à peu près la chose suivante. Vous avez une dichotomie complète en France entre les salariés et les non-salariés. Si vous êtes salarié, vous relevez du droit du travail, vous êtes réputé subordonné juridiquement, en échange de quoi, puisque vous avez renoncé à votre liberté, on vous protège de temps de travail excessif, de tas de choses. Ou bien vous n'êtes pas salarié, dans ce cas-là vous relevez du droit commercial et vous n'avez aucune de ces protections. Alors, cette dichotomie est assez spécifique à la France. Vous avez aussi bien en Allemagne qu'en Italie un concept de parasubordination, c'est-à-dire vous n'êtes pas subordonné juridiquement comme pourrait l'être un salarié, mais vous avez un lien de dépendance économique, par exemple, et donc vous avez une sorte d'hybride où, en fait, il faut vous imaginer que vos droits sont en proportion de votre liberté et de votre autonomie. Et donc vous avez un modèle beaucoup plus fluide, qu'on pourrait très bien transposer en France pour une raison simple, ce que montre Jacques Barthélémy, c'est que ça existe déjà. Alors, c'est un tout petit exemple, certes, mais les agents d'assurance sont des travailleurs indépendants, ce ne sont pas des salariés des compagnies d'assurance. Pour autant, il existe une convention nationale collective des agents d'assurance. Ça veut donc bien dire qu'il est possible d'organiser des droits collectifs, un droit de négociation collective, un droit d'action collective pour des gens qui sont des indépendants, qui ne sont pas des salariés. Donc la piste qui consiste à vouloir requalifier en travailleurs salariés tous les travailleurs des plateformes, qui est quand même ce vers quoi essaie de converger un certain nombre de propos, me paraît absolument catastrophique, alors même qu'on a cette alternative qui nous est montrée par d'autres pays et qui nous est montrée par l'exemple des agents d'assurance. Et sachant qu'en plus, comme je l'ai dit, beaucoup de ces personnes n'ont pas du tout envie d'être salariés, parce que si vous êtes salarié, vous avez des horaires de travail, enfin, vous avez des tas de choses dont ils ne veulent absolument pas. Sur le plan des assurances, en principe, ces personnes qui ne sont pas salariées devraient relever du régime social des indépendants. Bon, alors, le régime social des indépendants fonctionne comme ci, comme ça, on va dire. Donc, c'est pas un problème juridique, c'est un problème vraiment de gestion de la caisse, mais alors, c'est pas un problème conceptuel, c'est un problème pratique. Les problèmes conceptuels qui demeurent, c'est à quel endroit vous fixez le bon équilibre entre les cotisations et les droits. C'est-à-dire que si vous, comme souvent ce sont des revenus complémentaires, diffus, donc si vous fixez un minimum de cotisations assez élevé, ça va faire fuir tout le monde. D'un autre côté, si vous cotisez peu, vous aurez peu de droits. Donc, bon, la question de la fixation du niveau optimal de cotisation et droits est un sujet encore ouvert. Le deuxième sujet encore ouvert, c'est la portabilité des droits, puisque c'est des choses complémentaires, très mouvantes, etc. De ce point de vue-là, le compte personnel d'activité est un début de commencement de quelque chose, mais enfin, peut-être un peu loin du compte. Voilà. S'il y a des choses à suivre sur ce sujet qui préfigurent des innovations intéressantes, j'en mentionne deux. D'abord, La Poste a récemment racheté, en mars de cette année, une société de livreurs qui s'appelle Stuart. Donc si vous vous promenez dans les rues de Paris, vous voyez les Deliveroo qui sont en rose et les Stuart, ils sont en bleu, comme ça que vous les reconnaissez. Donc c'est des livreurs à vélo, d'accord, qui vont livrer. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que La Poste a dit « je vais essayer de montrer l'exemple de ce que peut être une économie de plateforme qui serait socialement responsable ». Puisque ce secteur est notoirement connu pour être très très dur. Il y a notamment l'exemple d'un autre livreur qui s'appelait Take It Easy, qui a fait faillite en laissant tous ses livreurs sur le carreau et sans même leur payer ce qu'ils leur devaient. Hein. Donc c'est plutôt le Far West. Donc le fait que La Poste dise « ok, La Poste était déjà actionnaire à hauteur de 22%, donc racheter la totalité de cette entreprise en mars dernier, avec l'ambition annoncée d'en faire un exemple de ce que pourrait être une plateforme socialement responsable, ce qui est très difficile parce que actuellement le droit est anti-vertueux. C'est-à-dire si une plateforme essaie de s'occuper de ses travailleurs, par exemple, il y a le cas très célèbre d'une plateforme américaine qui a des gens qui vont faire les courses pour vous. Donc, c'est pas très compliqué d'acheter une boîte de lessive. En revanche, c'est assez compliqué d'acheter un melon ou un avocat qui soit juste bien mûr à point. Bon, alors donc, ils voulaient les former à choisir des bons melons, par exemple. C'est quand même une valeur. Eh bien, ça s'est retourné contre eux. Parce que si vous les formez, vous êtes leur employeur, donc vous êtes requalifié. Donc actuellement, une plateforme qui voudrait prendre soin de ses travailleurs, ça se retourne contre elle. Donc voilà, j'espère que La Poste, avec Stuart, arrivera à trouver la faille juridique pour pouvoir faire quelque chose de bien. L'autre chose intéressante à regarder, c'est un prototypage fait par la FING, donc la Fondation Internet Nouvelle Génération, avec un certain nombre d'entreprises partenaires. C'est un programme qui s'appelle la musette du travailleur du 21e siècle. Alors, on l'a appelé comme ça parce que, vous savez, au 19e siècle, la musette, c'était là où les ouvriers transportaient leurs outils. Là, c'est quels sont les outils nécessaires à ce travailleur dont on vient de parler. Probablement, il lui faut faut une sorte de plateforme numérique qui lui permet de capitaliser tous ses droits sociaux. Il peut capitaliser ses contacts professionnels. Il peut avoir ses références professionnelles pour qui il a travaillé, avec quels résultats, etc. Et donc, on essaie de prototyper tout ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis plutôt favorable à cette économie des plateformes. Je pense qu'elle peut effectivement créer de la croissance et créer de l'emploi. Simplement, il faudrait la réguler un petit peu autrement que tel que c'est emmanché maintenant. J'ajoute une dernière chose, c'est que il n'y a pas que l'économie privée qui fait des plateformes. Il y a aussi tout un courant qui s'appelle « Government as a Platform », c'est-à-dire l'État plateforme, qui était encore il y a quelques années plutôt un rêve et qui est en train de devenir une vraie réalité. La France n'est pas en retard là-dessus, elle est même plutôt en avance. Et étant donné que le nouveau secrétaire d'État au numérique a été un fervent défenseur de cela, je pense que nous avons pour une fois une petite chance d'accroître notre avance sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention.